C'est vraiment un document exceptionnel.
Salinas, Washington, en route to Yakima. And of course, every time that any of us fly over the country near Mount Rainier, we spend an hour or two in search of the Marine plane that's never been found that they believe is in the snow someplace southwest of that particular area. That area is located at about, or its elevation is about 10,000 foot. And I had made one sweep in close to Mount Rainier and down one of the canyons and was dragging it for any types of objects that might prove to be the Marine ship. And as I come out of the canyon there, it was about 15 minutes. I was approximately 25 to 28 miles from Mount Rainier. I climbed back up to 9,200 feet, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite.
C'est peut-être bon, Bernard. On va traduire, bien sûr, Igor et Grishka, pendant que Bernard continue à... Il met à fond dans la boutique, lui, hein. Ses voisins, ils vont gueuler, hein. Alors, donc, ça, ce témoignage de ce fameux Arnold, donc, on le rappelle, qui est pilote et qui témoigne sur une radio américaine, ce qu'il a vu en face de lui. Là, qu'est-ce qu'il dit en deux mots?
En deux mots... pardon, Bernard, de te couper, je te laisse faire le commentaire.
50 secondes avant de faire la pause, alors oui. Bernard?
Oui. En fait, Kenneth Arnold explique, en gros, ce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il a vu une espèce de chaîne, qu'il a eu un éclair qui a attiré son regard, donc il a déjà regardé ce qui se passait, et il a vu, effectivement, ce qu'il croyait être, au départ, 9 avions en réaction, donc qui étaient tout nouveaux à l'époque, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et il pensait qu'effectivement, c'était des prototypes, et puis d'un seul coup, il a vu que c'était bizarre, que le comportement de ces espèces de chaînes, parce qu'en fait, c'était pas qu'un seul objet, il y en avait 9 en formation serrée.
Bernard, ne bouge pas, on revient dans un instant. Pour la suite de Planète Interdite, il y aura encore des témoignages à entendre de commandant de bord avec, bien entendu, plein d'autres choses. Et puis le fameux canular de 1938. Ne bougez pas.
127, go ahead. Yes, sir, I don't know what it was, but it was... Just overflew like a couple of hundred feet above us. It was like a, I don't know if it was a rocket or whatever, but incredibly fast.
Il dit ça va extrêmement vite. Je sais pas ce que c'est.
In the opposite direction.
La direction opposée.
Là, il explique là.
Là, il donne le gisement. Mais il est beaucoup trop rapide pour être un avion.
Beaucoup trop rapide, donc c'est ça. Et ensuite, l'objet disparaît. Hein. C'est bien ça, Bernard?
Absolument. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cockpit, c'était, en l'espace de quelques secondes, un petit peu la panique, parce que le copilote a instinctivement baissé la tête. Donc ce qui veut dire que pour un pilote confirmé, quand on baisse la tête, c'est que véritablement on avait l'impression que cette espèce d'objet allait leur rentrer dedans. Hein.
D'accord, mais alors ensuite ce témoignage, on en a fait quoi? Est-ce que c'est à prendre au sérieux? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres hypothèses que celle d'une fameuse soucoupe volante?
Alors, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une soucoupe volante, il s'agissait d'une espèce de fuselage sans ailes, je dirais un peu très blanc lumineux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le commandant de bord a déposé un Hermis, hein, c'est-à-dire en fait un rapport comme quoi il y avait eu danger de collision pour un avion de ligne, et donc il y a eu enquête. Alors ce qui est bizarre dans cette histoire-là, et c'est ce que le commandant de bord m'a rapporté à titre personnel, puisque je suis entré en contact avec lui, il m'a expliqué quand même que le FBI le NTSB, c'est-à-dire en fait l'organisme qui enquête sur les accidents d'avions aux États-Unis, était présent à la descente de son avion.
Et d'accord.
Donc
ça veut dire qu'il a été chopé à la sortie de son avion.
Absolument.
Et là, on l'a emmené probablement dans un endroit assez secret et on l'a fait parler pour essayer d'avoir toutes les informations et probablement lui demander de ne rien dire.
Pas nécessairement, mais surtout pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors c'est ça qui est.
Et qu'est-ce qu'on sait de plus? Qu'est-ce qu'on sait? Alors qu'est-ce qui a été dit de cet entretien? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce que tu le sais?
Absolument. Alors je dirais que cet entretien a abouti à pas grand-chose finalement, si ce n'est qu'à avoir un descriptif de cet incident, mais il faut savoir également que c'est pas la première fois que ça se passe au-dessus de New York.
Ah oui.
Et qu'il y a eu beaucoup plus d'avions de ligne qu'on croit qui ont été témoins de ce genre d'incident.
Voilà. Quelle est la fréquence des phénomènes?
Ça c'est très difficile à dire, parce qu'en fait ça peut être extrêmement concentré dans le temps. Il n'y a véritablement pas de règles en la matière. Mais je crois que là en l'occurrence, c'est vrai qu'entre 96 et 97, il y a eu à peu près, je crois, moins d'une dizaine de témoignages, d'observations de ce genre de phénomène par des pilotes de ligne de différentes compagnies.
Ce qui est important dans le cadre des observations aériennes, c'est qu'elles sont très souvent recoupées au sol par des observations radar, enfin par des signatures radar qui confirment ce que les pilotes voient.
Oui, alors absolument. Alors on a effectivement, il existe un catalogue qui a été fait par un chercheur français qui s'appelle Dominique Zenstein et qui a donc fait le recensement d'à peu près 1300 cas d'observation depuis 1931. De cas de pilotes, et sur ces 1300 cas dans le monde, on a à peu près recensé dans la période moderne à peu près de 23 à 25% d'observations à la fois visuelles et radar.
Ah oui, quand même. Et c'est bien parce que en remettant la date de 1931, c'est pour ça, après on revient sur ce fameux canular de Orson Welles, donc là on comprend un petit peu mieux qu'en 1938, il a fait ce qu'on dit le plus grand canular du siècle, où il a simulé une invasion d'extraterrestres aux États-Unis qui a été une panique générale. Et en fin de compte, je me suis demandé, mais en 1938 quand même, le gamin il était vachement en avance, mais on parlait déjà donc d'extraterrestres, et ça effrayait déjà vachement la population, enfin disons les humains, la planète.
Ah oui.
Hein, ça faisait peur, Bernard.
Oh bah oui, mais enfin, là, en ce qui concerne le phénomène OVNI en lui-même, moi, je ne dirais pas que c'est je dirais d'origine extraterrestre. On n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve. On sait qu'il y a un phénomène, qu'il faut l'étudier. On sait, et par exemple, je parlais tout à l'heure du Chili. Le Chili a pris comme priorité la sécurité aérienne. Ce qui veut dire qu'il considère que ce phénomène OVNI est un danger, entre guillemets, potentiel pour la circulation aérienne et bien sûr pour le transport civil.
Alors écoutez bien maintenant, vous qui nous écoutez, Bernard reste bien sûr avec nous, Igor et Grishka. Maintenant on va, si je puis dire, introduire de manière très rapide, dans l'espace de 12 secondes, le témoignage également d'un général français qui, lors d'une émission de radio, confirme, en tout cas c'est ses dires, hein, ça n'engage que lui, qu'il il y a probablement des extraterrestres ou des ovnis, c'est ça?
Ou pas? Il s'agit du général Letty, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
Pas un guignol, alors. Hein.
Non, je tiens à rectifier quelque chose. Il n'était pas chef d'état-major de l'armée de l'air, il a été simplement, responsable auprès du commandement allié en Allemagne, mais il n'a jamais été chef d'état-major. Il a été simplement, je crois, inspecteur général de l'armée de l'air.
Ceci dit...
Inspecteur général de l'armée de l'air, voilà, mais qui donc transmet son opinion. Quant à la meilleure hypothèse de ces phénomènes et son opinion, c'est que ces phénomènes sont, selon lui, d'origine extraterrestre.
Écoutons-le, ça dure 12 secondes.
Nous sommes convaincus qu'il y a une intelligence derrière ces phénomènes. Alors certes, on n'en a pas la preuve matérielle, celle que tout le monde souhaiterait, mais
on en a pas un petit morceau.
Voilà, donc ça c'est bien sûr à prendre peut-être avec des pincettes, enfin ça n'engage que le général Letty, hein, bien sûr, mais enfin ça a été fait il n'y a pas très longtemps sur les antennes de radio. Et puisqu'on parle de témoignages, mon cher Bernard, Igor Igrishka est là, ceux aussi qui nous écoutent, vous allez entendre maintenant, on va déborder un tout petit peu de cette émission, hein, puisqu'on a tellement de choses encore à vous faire écouter que allez, on va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Alors là pareil, alors ça c'est pas prendre un petit peu avec des pincettes, c'est prendre avec vraiment extrêmement avec des pincettes. Je vous fais écouter deux témoignages qui font marrer déjà Igor et Grishka d'avance, qu'en plus je crois sont des témoignages lors de reportages qui datent de votre émission de Télé Temps X.
Exactement, oui, c'est nous qui avions recueilli ces témoignages lors d'une émission consacrée aux extraterrestres. Mais qui étaient en fait présentés comme absolument authentiques.
Oui, bien sûr.
Ceux qui les ont vécu, évidemment, là, sont persuadés d'avoir vécu ça.
Rien à voir avec ce qu'on écoutera dans un instant, à savoir le canular d'Orson Welles avec l'arrivée des extraterrestres. Là, la personne que vous allez entendre est sûr et certain de ce qu'il est en train de raconter. En tout cas, lui, il dit avoir vu ce qu'il va nous narrer tout de suite. Écoutez, ça vaut le détour, c'est très intéressant.
Je dépose ma mobilette, je prends ma clé, j'ouvre ma porte, et au moment que je vais prendre ma mobilette pour la rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que je vois, cet engin-là, rouge, cylindrique, gros comme ça, hein.
Mais vous êtes allé voir de plus près ou vous êtes resté
là? Non, oh là là, j'avais trop peur, moi, hein. Et là.
T'as fait rire, Bernard?
Moi j'avais peur. Hein. Ça y est, rien à peur. Hein. Non. Et moi je sais pas ce que c'est, je connais rien, mais c'est un danger public. Il est bientôt temps qu'on s'en occupe. Hein. À 150 mètres des agglomérations, vous vous rendez compte, vous? À 150 mètres des agglomérations? Mais on sait pas qui qu'on a peur, nous. C'est peut-être pacifiquement ou bien quoi, on sait pas, nous.
Ça fait rire, Bernard, hein?
Ah oui, tout à fait.
Ouais. Alors j'en ai un deuxième à vous faire écouter également. Toujours mettez les cassettes en enregistrement. Là c'est pareil, un homme qui témoigne avoir été en face de quelque chose de pas humain avec des pattes d'araignée. Attention Bernard, tu risques de te marrer encore et vous aussi.
On aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des étriers, des machines comme ça. Et alors ça dégageait comme du gaz et des machines de papier qui flottaient derrière. Et ça, là, dire que je ne l'ai pas vu, moi j'ai vu le gros machin qui était en plein milieu. Là.
Et quel est le bruit que vous avez entendu? Est-ce que c'est un sifflement, un souffle?
Ah, comme un graissement. Comme c'était, comme on dit, un machin de vent qui fait sec, là, qui part sec.
Comme le, du vent dans les arbres.
Oui. Mmh.
Vous avez eu des ennuis après, non? On s'est moqué de vous? Non, pas du tout.
Oh, il y en a bien quelques-uns qui disaient qu'on a eu des illusions dans le ciel. Mais pour moi, j'étais pas tout seul. J'aurais été tout seul, j'aurais rien dit. Mais comme j'étais pas tout seul...
Eh ouais, voilà. Donc là, c'est pareil. Ça, effectivement, sont des témoignages qui sont... la base pris très au sérieux.
Dans totalement authentique, par
authentique,
témoin,
voilà,
en tout cas.
Par un témoin, ah, voilà, qui lui est persuadé d'avoir vu ce qu'il nous a raconté. Maintenant, de là à dire que tout ce qu'il a vu est vrai, ben, on peut croire que, on peut avoir vu, croire avoir vu quelque chose qui ressemble à une soucoupe volante, alors qu'en fin de compte, ça ne l'est pas du tout. Donc,
mais oui, il y a une énorme quantité de témoignages qui sont le fruit d'aberrations visuelles, et malgré le fait que le témoin soit persuadé d'avoir vu un ovni, il s'agit de toute autre chose, il s'agit d'une illusion d'optique, il s'agit...
Alors, quelles sont les questions à poser pour commencer à se dire, tiens, peut-être qu'effectivement, le témoignage qu'on est en train de nous dire...
Il y a
4-5 questions,
j'imagine. Il y a un certain nombre de questions, effectivement, qui sont répertoriées par la gendarmerie et qui sont ensuite filtrées par le CEPRA, dont on a parlé tout à l'heure.
C'est quoi les questions, alors? Qu'est-ce qu'il faut... Il y a 4-5 questions auxquelles il faut répondre
Oui, en réalité, il y en a beaucoup plus. Au départ, on avait considéré qu'il fallait au moins 20 questions.
Ah oui.
Puis finalement, on a restreint parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop lourd pour le témoin, qui était en fait souvent dans un état de choc, un peu paniqué. Donc remplir un catalogue de 20 questions quand on est en face d'un objet comme ça, c'est quand même...
L'idéal, c'est d'avoir au moins une autre personne qui peut témoigner de la même chose pour éviter effectivement d'inventer...
Une convergence d'opinion, bien sûr.
Voilà.
Une convergence d'opinion.
Pour justement comparer les deux si ça tient bien la route. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir comme question très importante pour éventuellement que le phénomène soit crédible, Bernard?
Oh, bah moi je crois que déjà il faut connaître déjà la position des étoiles, savoir si ce n'est pas, comment dirais-je, une planète, hein, parce que souvent la planète Vénus, la planète Jupiter sont souvent pris pour des ovnis.
Ah bon?
Bien sûr.
Comment ça?
Bien entendu, parce qu'à certaines époques de l'année, lorsque le ciel est vraiment très très clair, on a vraiment l'impression que c'est une espèce de d'engin qui vous arrive. Alors pour les gens qui fixent, qui n'ont pas l'habitude d'avoir les étoiles, des fois ils ont, mais simplement également les satellites. Il suffit d'avoir vu un jour la station Mir passer au-dessus de la France, hein, pour bien entendu penser qu'on a vu un ovni à ce moment.
C'est la même chose aussi pour les aérolithes. D'ailleurs, quand on voit ce qu'on appelle une étoile filante,
oui,
qui arrive dans l'atmosphère, elle, oui, brûle, elle fabrique une lumière qui est verte avec une traînée. Effectivement, on peut concevoir que c'est un objet non identifié, alors que c'est en fait parfaitement identifié.
Bernard, je crois savoir également, puisque on va se tutoyer, hein,
oui,
hein, tu as énormément volé sur différents types d'avions,
exactement,
et tu as eu la chance d'avoir en main, paraît-il, une carte militaire américaine. Sur cette carte, il y a des petits points qui indiquent le point d'impact d'objets non identifiés ou OVNI. Alors c'est quoi ça exactement?
Oh là non, alors il ne s'agit pas d'une carte militaire.
Tu dis des conneries ou quoi? Dis tout de suite que je dis des conneries alors.
Il s'agit d'une carte de navigation aéronautique,
hein, ah, oui,
de l'état du Nouveau-Mexique, qu'on utilise lorsqu'on prend un avion un petit Cessna. Hein. Et là, effectivement, sur cette carte, qui est quand même certifiée par l'aviation fédérale américaine et le gouverneur du Nouveau-Mexique, j'ai trouvé près de Roswell, il y a un petit sigle avec en forme de soucoupe volante où il y a marqué lieu de l'accident de l'OVNI.
Ah oui, ce qui n'est pas pareil, d'accord, donc c'est pas forcément un point d'impact, c'est là, d'accord, donc ça c'est... Mais tu as survolé, tu as vu des choses concrètement, des choses un petit peu étranges, qu'est-ce que tu peux nous dire de...
Mais tu as été au-dessus de Roswell, non?
Oui, tout à fait.
On peut pas survoler Roswell, si?
Oui, absolument, j'ai survolé Roswell. Bon, Roswell était une base militaire, maintenant il est devenu, c'est devenu un aéroport civil. Hein.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est vraiment devenu quelque chose d'accessible. On a des zones simplement militaires, parce qu'il y a beaucoup de bases, il y a quand même certaines bases aériennes, donc il faut éviter un petit peu de rentrer dans ces zones-là. Mais bon, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, je vais demander à un pilote, donc en plus c'était un ancien militaire américain, et donc il avait piloté du fantôme de reconnaissance au Vietnam et nous avons volé vers Roswell et on s'était équipé d'un GPS donc pour parfaire notre navigation. J'avais rentré les coordonnées donc en longitude et en latitude de ce présumé lieu de crash, ou tout au moins du champ, du fameux champ de débris là, de McBrazel, où finalement on avait soi-disant retrouvé des débris d'un ovni.
Ouais.
Et donc je m'étais dit, finalement ça serait quand même bien de survoler le coin.
Donc c'est ce qui a été fait.
Et c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, lui a eu le réflexe de pilote. Il m'a dit, c'est quand même bizarre, c'est pas pareil qu'ailleurs. et on voit effectivement que c'est un petit peu calciné. C'est... Alors il se trouve que le sol du Nouveau-Mexique a une nature géologique assez intéressante parce que comme il n'y a pas beaucoup de précipitations, bien disons que on peut penser quand même que le relief, le terrain ne change pas beaucoup.
D'accord, ouais.
Alors, donc, s'il s'est passé quelque chose, il y a effectivement des traces.
D'accord.
Donc, maintenant, de là à dire qu'il s'agit d'un ovni, ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a des traces.
Très bien. Clair. Alors, avant d'écouter ce fameux canular Dorsal West de 1938, on réexpliquera un petit peu, on remettra dans le contexte et la situation. Là, juste pareil pour le fun, pour le plaisir également, ça va faire encore rire Igor et Grisha, parce que je crois que ça vient de votre émission Temps X, sans qu'ils le sachent, hein, c'est en l'écoutant tout à l'heure qu'ils s'en ont aperçu. Comme on parle d'ovni, et que peut-être ils existent, les Men in Black, ils sont peut-être sur Terre, transformés. Si vous vous retrouvez un jour, vous qui nous écoutez, face à des petits gris, des hommes verts, ou alors une soucoupe volante qui viendrait se poser dans votre jardin, il y a un certain nombre de choses à faire, hein, donc pareil, un papier et un stylo, et notez ce que vous allez entendre maintenant, c'est un témoignage d'un gendarme, ça devait dater des années...
Un commandant de gendarmerie.
Commandant de gendarmerie, alors vous voyez... Comme
mais
quoi...
ça, je peux te dire, c'est exactement en 1986,
ah
puisque
bon
c'est nous, encore une fois, c'est dans l'émission Temps X, que nous avons été donc enregistré ce témoignage d'un commandant lors d'une émission consacrée aux ovnis.
86, c'est pas si vieux que ça. Écoutez donc ce qu'il faut faire face à un extraterrestre.
Pour une personne appelée à constater un phénomène étrange dans le ciel ou à proximité du sol, il convient donc d'attirer... si possible, l'attention d'autres témoins en n'omettant pas de noter leur nom et leurs adresses
pour
les retrouver ultérieurement.
Alors tu paniques pas.
De noter soigneusement et le plus tôt possible la position du phénomène dans le paysage,
dans genre,
oui,
la distance du phénomène par rapport aux témoins,
là, il faut être scientifique,
et
hein,
si possible son axe de progression.
Tu penses.
Et surtout, il convient de vous rendre très rapidement à la brigade de gendarmerie
la plus proche,
bien sûr,
afin d'y apporter votre témoignage.
Et attention, écoutez,
je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialisées.
Donc là, il y a le mot ridicule qui revient, on en a parlé en début d'émission, la peur du ridicule. Maintenant, de là à imaginer être en face d'un truc que tu connais pas et de dire au truc qui est en face de toi, ne bouge pas, je vais chercher des potes. Remarque, heureusement, il y a le portable aujourd'hui pour pouvoir être à plusieurs à témoigner de la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande de savoir là, quoi, à quel endroit il se trouve par
l'axe, la distance par rapport à l'observateur, la progression, l'axe de progression, et ainsi de suite.
Là, il avait fumé la moquette quand même, là, le commandant de la gendarmerie, parce que pour faire tout ça, je sais pas, t'y arriverais toi, Bernard, personnellement?
Mais écoute, moi je vais te dire, ce qu'il raconte, c'est un protocole, et ce qui est drôle, c'est que le protocole est le même partout.
D'accord.
Même aux États-Unis, c'est exactement les formulaires qui sont donnés, par l'armée de l'air américaine, par la force aérienne chilienne, c'est exactement la même chose.
D'accord. Et vous voulez rajouter quelque chose, Igor et Grishko, ou alors on peut faire écouter ce fameux canular, ou... Parce que ça, c'est marrant aussi, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je pense que Bernard le connaît également. Donc Orson Welles, qui est un animateur de radio sur une chaîne américaine, qui en 1938 a eu l'idée, une folle idée, hein, parce que c'est quand même le premier canular véritable sur une radio, et surtout le plus gros de tous les temps. Il a simulé avec des comédiens l'invasion d'extraterrestres, non pas sur la Terre, mais déjà sur New York, ou en tout cas aux États-Unis.
Sur le continent américain.
Sur le continent américain. Et donc, vous allez suivre en plusieurs parties l'évolution de ce canular. On va commencer d'abord avec la première partie de ce canular. C'est l'émission normale, il y a un disque, et d'un coup, le disque est coupé. Et là, Orson Welles prend l'antenne pour expliquer ce qui se passe. On va, bien entendu, tout en écoutant le témoignage d'Orson Welles, vous traduire ce qui est en train de se dire. Donc là, il y a le programme, il coupe le programme.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
Alors donc, le programme est coupé. Là, après, il reprend le programme. Le programme est coupé. Et là, Orson Welles explique qu'on vient d'entendre des explosions.
On a décelé des explosions à la surface de Mars.
À la surface de Mars.
Qui sont des explosions d'hydrogène.
Qui envoient des gaz. Donc.
Qui envoient des gaz en direction de la planète Terre à très grande vitesse.
Voilà. Donc là, ensuite, le programme radio reprend normalement. Et Orson Welles reprend le programme quelques minutes après. Et là, en direct, comme si c'était un reporter qui était sur le terrain, va à la rencontre de soi-disant témoins et de ce que vous allez entendre. Alors qu'en fin de compte, je le rappelle, tous ces gens-là ne sont et uniquement que des comédiens. Donc là, la deuxième partie de ce canular avec un témoin qui raconte ce qu'il a entendu et peut-être ce qu'il a vu.
And what did you hear? A hissing sound like this. Kind of like a 4th of July rocket.
Yes, then what?
I turned my head out the window and would have sworn I was asleep and dreaming.
Yes?
I seen a kind of greenish streak and then zingo. Something smacked the ground, knocked me clear out of my chair.
Well, were you frightened, Mr. Wilmot?
Well, I ain't quite sure. I reckon I was kind of riled.
Well, thank you, Mr. Wilmot, thank you very much.
Alors là, pareil, donc là il va vers le premier témoin, il lui demande ce qu'il a entendu, donc il lui a dit que c'est comme un bruit qui fait pshhh, et ensuite...
Exactement.
Et quoi d'autre encore à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il raconte d'autre?
Ouais, il raconte tous les détails, enfin, ce qu'un observateur un peu avisé, c'est-à-dire un observateur qui serait dans la peau d'un journaliste, verrait à ce moment-là. C'est-à-dire, il voit donc une espèce de sorte de décompression, et
voilà.
Puis décrit l'engin. Et,
il demande s'il a eu peur.
S'il a eu peur, etc. Et donc finalement, Orson Welles conditionne l'auditeur à la réalité de ce phénomène.
Et là, attention, le canular monte crescendo, parce que ça dure une heure et demie. Hein. Là, on vous fait passer des petits extraits comme ça, on vous met d'étape à étape. Voici le prochain niveau de ce canular, avec cette fois-ci l'apparition. Et là, ça se passe en direct. Orson Welles est sur le terrain, et d'un coup, il y a l'apparition d'une soucoupe volante.
D'une soucoupe volante.
Et écoutez donc l'ambiance qu'il peut y avoir tout autour d'Orson Welles.
Ladies and gentlemen, this is terrific.
Là, il commente.
This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow.
Là, c'est la porte qui s'ouvre.
Là, c'est la porte qui s'ouvre. En train de témoigner comme quoi il y a quelqu'un qui est en train de sortir.
Exactement.
La porte vient de s'ouvrir.
Et on demande au témoin de reculer le plus vite possible.
Donc là, effectivement, la porte s'ouvre, on entendait le bruit.
Les témoins doivent reculer.
Et là, le public, enfin les gens qui sont autour, tout autour de ça, effectivement, on leur demande de reculer. C'est un peu la panique, quoi.
C'est un peu la panique, et c'est la panique dans tous les États-Unis, parce qu'à ce moment-là, les auditeurs abandonnent leur poste, se précipitent dans leur voiture et commencent à fuir.
C'est vrai, parce qu'on rappelle que ce canular se fait en direct, que c'est écouté dans tous les États-Unis, et que là, il commence véritablement à avoir un vent de panique. Et bien entendu, ce canular est extrêmement pris au sérieux par la population américaine. Le canular continue, ça monte de minute en minute en minute en minute. Et là, Orson Welles, à ce moment-là, commence à se retrouve en face d'un extraterrestre, d'un E.T. comme on l'appelle, et raconte donc à quoi il ressemble. Et il va maintenant jusqu'à raconter l'attaque des extraterrestres, avec donc des faisceaux laser, et ça commence à tirer dans tous les sens, des émissions de gaz, et également donc vous allez entendre des gens qui vont simuler la mort en direct.
Wait a minute, something's happening.
Orson Welles qui parle.
Shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames.
Là, donc, vous entendez. Donc, en gros, il dit qu'il y a des jets de flammes qui jaillissent de partout, et puis qu'il tire sur les gens, et que ces gens-là prennent feu.
Exactement.
Et donc, c'est pour ça que vous entendiez des gens crier et tout. Donc,
exactement
là,
comme dans La Guerre des Mondes, puisqu'en fait, Orson Welles s'est inspiré du roman, d'ailleurs, de son homonyme, Welles, de Herbert George Welles, donc, qui, en 1898, a écrit donc, La Guerre des Mondes et a décrit ce scénario de l'attaque des extraterrestres sur une population terrienne.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'invasion massive. Donc là, c'est l'attaque générale. Je pense d'ailleurs que ça ressemble étrangement à Independence Day, où dans le canular, donc Orson Welles raconte qu'il y a d'énormes vaisseaux noirs
qui viennent quasiment
recouvrir une ville entière, comme on peut le voir dans Independence Day. Et on attend donc l'assaut final de ces extraterrestres, qui est en train de se faire. Et le final de ce canular, Orson Welles...
C'est une ambiance d'apocalypse.
Ah oui, là, c'est l'apocalypse totale.
Et là, il faut bien penser que toute l'Amérique est pratiquement touchée par le phénomène.
Exactement.
Et qu'une bonne partie, hein, pratiquement 10% des Américains se sont rués dehors et sont effectivement soit à bord de leur voiture, les voitures sont bloquées. Il y a, malheureusement, il y a des morts. Hein. Ah, vous pensez qu'il y a des morts, des accidents, des crises cardiaques et nombre et des suicides.
Et des suicides,
effectivement,
ouais.
Sont liés à cette panique fabuleuse qui a gagné les États-Unis en 1938.
On dit fabuleuse, c'est joli maintenant l'écouter, mais en imaginant qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça au sérieux et qui se sont donné la mort. Et donc, le final de ce canular, c'est Orson Welles qui, de nouveau, reprend le micro et raconte donc l'assaut final. Et raconte qu'il y a donc des gaz, je vous le dis d'avance, des fumées qui partent dans tous les sens et qui asphyxient en fin de compte la civilisation, qui les tue quasiment sur place. D'ailleurs, il va témoigner de tout ça. Et Orson Welles, la cerise sur le gâteau, peut-on dire, va lui-même simuler sa propre mort.
Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the street see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use.
Là, il raconte.
They're falling like flies. Now the smoke's crossing 6th Avenue. 5th Avenue. 100 yards away. It's 50 feet.
Et là, il tombe. Donc là, encore une fois de plus, pour rappeler, donc il dit que les Russes sont bondés de monde, ça part dans tous les sens, c'est la panique générale. Et ensuite, il raconte en fin de compte les extraterrestres qui arrivent donc 4e, 5e avenue, Times Square, etc. Donc là, il décrit un petit peu les quartiers de la ville. C'est comme si vous disiez à Paris, ils sont à Bastille, République, maintenant ils sont à Châtelet, etc., etc. Sur les Champs-Élysées, des gaz sont envoyés, des fumées énormes dans tous les sens qui asphyxient les gens, jusqu'à Orson Welles, donc qui va jusqu'à simuler sa propre mort.
Ce qui est extraordinaire, c'est que les commissariats américains ont été, à cette époque-là, donc pendant cette folle nuit, ont été envahis par des témoins, surtout des appels, mais surtout des témoins qui ont confirmé
avoir vu ce que lui avait simulé de A à Z. Ça,
exactement.
C'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire.
Bernard ?
Oui, oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On va conclure là-dessus parce qu'on a simplement 21 minutes de retard.
Oui.
Mais c'est tellement passionnant. C'est très intéressant ce que venait dire Grishka. C'est qu'il y a quand même des gens, alors qu'ils écoutaient ce qu'on vient d'entendre à la radio, donc ce fameux canular, qui ont quand même vu ce qui n'a jamais existé, quoi, qui est de la pure, pure canular supercherie. Comment on peut en arriver là ? Donc on peut dire que beaucoup de témoignages ont été pas forcément inventés, mais on...
Tout à fait, mais enfin, ça n'a pas été aussi dramatique, heureusement, que ce qu'on a cru, hein, parce qu'en fait, en 1938, il y a eu effectivement une grande panique.
Quand même.
Mais c'était pas aussi quand même dur. Mais par contre, on peut dire qu'on a réitéré dans les années qui ont suivi la guerre, parce que bon, il y a l'Équateur en 47 qui une radio à Quito qui a refait ça.
Et il y a au Portugal, non, surtout dernièrement,
au Portugal, le 30 octobre 1988, où là il y a une radio de près de Porto, Radio Braga, qui a refait exactement le même cinéma, hein. Et ça a absolument marché dans les mêmes conditions.
Très bien.
Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, et c'est très bien que vous parliez de cette guerre des mondes, parce que c'est un élément qui a été donné.
C'est quoi la guerre des mondes, on le rappelle,
c'est le titre du roman de
Herbert George Wells.
1899, c'est ça ?
Oui, 98.
Et il faut dire que cet exemple de, je dirais, de cette panique a servi comme élément à la CIA et à l'armée de l'air américaine, et lors d'une commission qui s'appelle la Rock Commission Robertson, donc qui était destinée à analyser le problème des ovnis dans les années au tout début des années 50, en 53. Et là, on a pris en exemple justement ce qui s'était passé. On a dit surtout, il ne faut pas dramatiser le problème des ovnis, parce qu'on pourrait en venir au problème de la guerre des mondes.
Très bien, merci Bernard en tous les cas, et on vous retrouve très prochainement donc dans un hors-série qui sera amené à être dans les kiosques du
mercredi,
d'accord, donc c'est très bientôt.
Nouvelles évidences
où on pourra lire donc plein de choses dont on n'a encore jamais entendu parler.
Absolument, et ça sera, je dirais, beaucoup de révélations, mais là, ça sera du vrai. Hein.
Oui, en rapport avec ce qu'on vient d'entendre concernant le canular. Merci beaucoup, Bernard.
Merci Bernard.
C'est marrant, c'est une émission de télévision. Conclusion de cette petite émission Planète Interdite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour ceux qui nous ont écoutés ce soir concernant, la vie extraterrestre, les travaux, les recherches, les ovnis, tout ça, tout.
Mais je crois qu'on peut retenir deux choses. La première, c'est que la vie est un phénomène universel, qu'elle s'est développée forcément ailleurs, Et la deuxième chose, c'est qu'il existe ailleurs des formes de vie intelligentes, des civilisations, et que par conséquent, ces civilisations éprouvent peut-être le désir de voyager jusqu'à nous et de venir nous rendre visite.
Et peut-être que les fameux Men in Black, comme dans le film, c'est-à-dire des gens qui prendraient l'apparence humaine, existeraient vraiment, et donc on est peut-être, et ça on ne sait pas non plus, entouré.
Alors ça, ce sera l'objet d'une de nos prochaines rencontres, Max, parce que là, il y a beaucoup à dire.
Eh ben, j'y compte bien. Grishka, quelque chose à dire aussi en conclusion de cette émission de ce soir ?
Je pense que la science aujourd'hui a avancé d'une manière extraordinaire par rapport à ce qu'elle pensait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, elle était persuadée qu'on devait fermer en quelque sorte toute écoute possible à ce type de phénomène ou phénoménologie qu'on appelle les extraterrestres, les ovnis. Aujourd'hui, effectivement, elle est ouverte à cette hypothèse. C'est une évolution qui est considérable. Parce que les hommes de science, aujourd'hui, comme il y a 50 ans, n'ont pas davantage de preuves. On n'a jamais eu encore, de manière concrète et irréfutable, la preuve qu'il existe des vies extraterrestres, a fortiori des vies évoluées. Cependant, les hommes de science aujourd'hui sont...